Bonjour, nous allons vous parler d'un thème d'actualité.
Et c'est la classe 7C1 qui va vous la présenter.
On va vous présenter une émission radio autour de l'Euro 2016.
C'est parti!
Et juste pour l'instant, nous allons vous passer une chanson qui s'intitule One Dance.
Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous vous retrouvons avec Emma, Jocelyn et Alexandre, et moi c'est-à-dire Elena. Alexandre, comment est-ce que tu vas ?
Bien et toi ?
Bien.
Emma, tu sais ce qu'il y aura lieu le 10 juin ?
Non.
C'est simple Emma, il y aura l'Euro 2016.
Eh oui, comme vient de le dire Jocelyn, il y aura l'Euro 2016. Et cette année, pour ouvrir le bal, il y aura la France contre la Roumanie à 21h sur TF1. Alexandre, quelles sont tes équipes favorites pour cette année ?
Le Portugal et la France.
Et toi Jocelyn ?
La France et l'Allemagne.
Emma ?
Portugal et Espagne.
Moi, c'est l'Albanie et la France. Alors, tout de suite, nous vous laissons avec l'interview de...
Monsieur Schibert.
Qui était...
Entraîneur de football.
Et qui va répondre à toutes nos questions.
Alors, merci Monsieur Schibert d'être venu répondre à nos questions.
Oui, merci à vous de m'inviter.
Alors, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors... Le nom, ben, vous l'avez indiqué, hein, je m'appelle André Schibert, je suis l'administrateur scolaire, chef du service des écoles de la ville de Bulle, donc je travaille pour la ville de Bulle. Mon employeur, c'est la commune de Bulle, et je suis le responsable afin que les écoles de Bulle puissent bien fonctionner, au niveau des bâtiments, au niveau des finances, au niveau du matériel, etc. etc. Et je collabore avec les responsables d'établissement des différentes écoles de Bulle. Ça, c'est au niveau professionnel. Et puis, à côté de ça, je suis aussi actif dans le sport. Au niveau du football, je suis instructeur ASF, Association Suisse de Football. Donc, je forme les entraîneurs. Et j'ai dû avoir passablement d'entraîneurs que vous avez peut-être au FC Bulle ou au FC de la région. Et puis, entre autres, pour ceux qui connaissent le Team La Gruyère, je suis le fondateur du Team La Gruyère.
Depuis quand pensez-vous que l'euro existe ?
Alors là, tu me poses une question, je ne sais pas. Je sais que le mondial a commencé dans les années, sauf erreur, 1920. Et c'était, sauf erreur, en Uruguay, la première édition en 1920, il me semble. Mais l'euro...
C'est entre 1960
et 1980. Voilà. C'est une marge assez grande, hein. Ça va, c'est bien. Alors, d'accord, le championnat du monde... En 60, date 6 était en Angleterre, donc c'est peut-être par rapport à cette date-là. C'est possible.
D'accord. Et que pensez-vous de l'euro ?
Ce que je pense de l'euro, du championnat européen des nations, ben je trouve que c'est une très bonne chose, en espérant toujours que le gagnant de ces championnats d'Europe, cette Coupe d'Europe, c'est surtout le football. Alors bien évidemment, il y a une nation qui gagne, mais pour finir, si on réfléchit bien, le grand gagnant de ces manifestations européennes, mondiales, ça doit être le sport. Et c'est le football qui devrait sortir gagnant de ces championnats. Mais je vois ça d'un très bon œil parce que c'est encore une manifestation qui intéresse énormément de monde. Hein. Les joueurs, les nations, les entraîneurs, les écoliers qui échangent les petites étiquettes. Hein. Je crois que beaucoup de personnes est intéressées par... Et puis ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a autant de filles que de garçons qui s'intéressent au foot. Ça, c'est une très bonne chose.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir entraîneur ?
Eh bien, écoute, tout d'abord, on est joueur, souvent. Hein. Les entraîneurs ont été joueurs. Et puis, à un moment donné, pour ma part, ça a été un petit peu les blessures en tant que joueur. J'étais à la porte de la Ligue Nationale A au Lausanne Sport dans les années 78-77. Et puis les blessures arrivent, ça on peut pas tellement maîtriser. Et puis à un moment donné, on joue un peu moins, et puis on est souvent blessé, et puis on se dit tiens, on aime tellement le foot qu'on veut rester dans ce milieu-là. Et puis on passe assez naturellement du rôle de joueur à entraîneur. Il faut faire ses formations, ses papiers, et puis ensuite, ben il faut avoir l'opportunité d'être engagé par un club, soit pour entraîner des juniors, soit pour entraîner des actifs. Mais la réponse, je dirais, globale, c'est la passion. C'est la passion du foot. Et puis après ça, si on n'est pas passionné, à mon avis, on n'arrive pas dans ce milieu-là. Du reste, j'ai entraîné de temps en temps, quelquefois, votre maîtresse, qui était dans l'équipe féminine du FC Bulle quand on a débuté l'équipe. Et puis Nathalie était la gardienne de cette équipe.
Pourquoi aimez-vous ce métier ?
Lequel de métier ? Le mien, ici, administrateur, ou bien le rôle d'entraîneur ?
Entraîneur.
Pourquoi j'aime ce métier ? Alors, aujourd'hui, je n'entraîne plus. Par contre, je forme les entraîneurs qui vont avoir des juniors. Les juniors E, juniors D, juniors C. Alors, ils passent... je suis responsable d'une formation qu'on appelle animateur de foot. Et puis pourquoi j'aime ça ? Bien parce que j'ai envie que les futurs entraîneurs, les futurs formateurs, je préfère des fois parler de formateurs plutôt que d'entraîneurs, j'aime bien quand ils font juste. Parce que sous les ordres, ils ont des enfants, des garçons, des filles. Et puis on peut faire des bêtises si on ne sait pas très bien entraîner. Et ça, j'aimerais pas. Alors... si je suis encore dans le foot aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de former des entraîneurs et que ces entraîneurs fassent juste avec les jeunes footballeurs. Parce que ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que peut-être un junior d'aujourd'hui, inconnu, sera peut-être un futur international. Et ça, on ne sait pas. Alors, c'est comme vous aujourd'hui, hein, là, il y aura peut-être des futurs médecins, des futurs chirurgiens, des futurs comptables, des futurs enseignants, on ne sait pas à l'avance. Alors quand on ne sait pas, ben, on doit s'assurer qu'on puisse faire juste avec les enfants que vous êtes aujourd'hui et qui deviendront plus tard adultes, donc docteurs ou peut-être footballeurs, il y aura peut-être un futur footballeur professionnel. Mais n'oubliez pas qu'il est plus difficile de devenir footballeur professionnel que docteur en Suisse pour l'instant.
Quels sont les changements du foot du passé par rapport à aujourd'hui ?
Les grands changements, il y a eu déjà au niveau de la condition physique. Vous comprenez quand je vous dis condition physique ? Hein, le jeu va beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que les méthodes d'entraînement se sont améliorées. Donc on tire aujourd'hui plus facilement le maximum d'un sportif parce qu'il y a une condition physique qui est très développée. Donc ça va plus vite. Donc, si une fois vous avez l'occasion de regarder une vidéo de quelque chose d'un match dans les années 60 et puis vous comparez avec aujourd'hui, vous allez voir la différence. Et puis il y a aussi tactiquement. Tactiquement, ça veut dire comment est-ce qu'on positionne les joueurs sur le terrain afin d'essayer de contrer l'adversaire. Ou bien comment mettre ses joueurs afin d'essayer de tromper et de réussir à tromper l'adversaire afin de marquer un but.
Et quelles sont les difficultés ?
Les difficultés pour faire quoi ?
Pour jouer ou bien pour entraîner ?
Il n'y a pas de difficulté si tu as la passion. Si tu es passionné, tu vas faire ton job, tu vas faire ta fonction naturellement et tu vas le faire avec plaisir. C'est comme partout, c'est comme vous. Aujourd'hui, vous venez à l'école avec plaisir, donc vous aimez venir à l'école. Et bien, dans le foot, c'est la même chose. Vous avez du plaisir à aller vous entraîner, donc vous allez le faire avec passion, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté. Après, ça dépend tout dans quelle équipe tu es. La difficulté au niveau international, c'est quoi ? Ben c'est de savoir gérer le stress d'une rencontre. Hein ? Un entraîneur au niveau international, sa plus grande qualité, c'est de gagner les matchs. Vous allez me dire, mais c'est pas une qualité, ça. Et pourtant, on peut être excellent et puis pas avoir beaucoup de chance, perdre, et puis... Vous allez être considéré comme un entraîneur moyen, voire peut-être mauvais, et ce n'est pas forcément les véritables valeurs qui ressortent. Donc la difficulté, elle est plus à gérer la gestion d'un moment, et puis avoir ce qu'on appelle un peu la réussite, mais ça c'est difficile à le savoir à l'avance.
Combien d'années avez-vous entraîné ?
Oh là là, moi je ne compte plus. Écoute, entraîner ou instruire, si je réunis les deux, ça fait, je dirais, une trentaine d'années. Ça fait 30 ans à peu près que j'entraîne ou que je forme les entraîneurs. Et puis avant 30 ans, j'avais joué. Junior, comme vous, dans les petits clubs. J'avais commencé au FC Bulle. Après, mes parents ont déménagé à Lausanne. J'ai joué au Lausanne Sport pendant 6 ans.
D'accord, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, j'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé.
Mais alors, nullement, ça m'a fait énormément plaisir de venir vers vous ce matin.
Merci.
Merci.
Monsieur Schibler a voulu vous transmettre par cette interview que si on n'a pas la passion, on n'a rien. Alors si vous aimez faire quelque chose, que ce soit du foot, du basket, du judo ou du karaté, continuez si ça vous plaît. Alors aussi, si vous êtes née entre 2000 et 2005 et que vous êtes une fille, si vous aimez aussi beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup le foot, vous pouvez nous contacter pour s'inscrire parce que peut-être qu'il y aura une équipe de foot pour les filles qui sera créée soit à Bulle ou dans les environs. Donc contactez-nous si vous voulez vous inscrire. Alors tout de suite, on va vous passer une chanson
qui s'intitule
This One For You.
De David Guetta. We're in.
mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec la Radio Box.
Et aujourd'hui, on est en compagnie de moi, Tomé, de Yana, de Sergio et d'Albine.
Tomé, est-ce que tu aimerais bien aller voir un match de l'Euro 2016 ?
Oui, j'ai trop envie, mais j'ai quand même un peu peur après tous ces attentats.
Mais il y a des agents de sécurité.
Oui, mais peut-être que les agents de sécurité ont aussi peur des attentats.
Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a invité Ludovic Charrière qui va pouvoir nous répondre à toutes nos questions.
Bonjour, monsieur Charrière. Merci d'être venu pour répondre à toutes nos questions.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Ludovic Charrière. J'ai 27 ans. J'habite à Trévoux. Et je suis agent de sécurité depuis maintenant 3 ans. Et puis voilà.
Quel type de formation faut-il faire pour être Securitas ?
Alors, je tiens juste d'abord à préciser que Securitas, en fait, c'est le nom d'une société de sécurité et que le métier que nous faisons, c'est agent de sécurité. Maintenant, quelle formation il faut pour faire ça ? Au préalable, il n'y a besoin d'aucune formation parce qu'une fois que vous allez être engagé en tant qu'agent de sécurité, on va, nous, vous fournir la formation que vous allez avoir besoin pour travailler chez nous. D'abord, une formation de base et ensuite, quand vous allez arriver sur le site, une formation plus spécifique pour travailler sur ce site.
À votre avis, combien d'agents il y a pour protéger les joueurs et un stade de foot ?
Donc, si je comprends bien, vous parlez lors d'un match de foot. Alors, c'est un chiffre qui est très dur à donner parce que ça va varier par rapport à la grandeur du stade, par rapport au match qui est en train de se jouer, si c'est considéré comme un match à risque ou pas. Mais pour donner plus ou moins une réponse, pour un match qui est considéré comme dangereux, on va compter un agent tous les 3 mètres sur le terrain, plus un agent à chaque entrée, plus des agents dans le stade qui vont se déplacer. Donc ça se compte en centaines d'agents.
Est-ce que parfois vous travaillez en civil et pourquoi ?
Alors oui, ça arrive, ça dépend de la nature du service. Si c'est un service qui demande de la prévention, on va mettre un uniforme pour montrer qu'il y a un agent. Et si c'est un service qui demande de la discrétion, là on va être en civil, tel que du déplacement de matières précieuses, ou comme selon le thème ici, il y a des agents qui vont être en civil dans les gradins, qui vont regarder le match de foot, et qui seront prêts à intervenir directement sur place.
Comment êtes-vous habillé ? De quoi avez-vous besoin comme matériel pour travailler ?
Alors, quand on est habillé en tant qu'agent de sécurité proprement dit, on a un uniforme de couleur unie. Et le matériel, je dirais la seule chose qu'on a sur tous les services, c'est un moyen de communication, une radio ou un téléphone. Puis après, ça va dépendre selon la nature des services. Un service de circulation, par exemple, on va privilégier du matériel visible, un gilet de couleur, une lampe de poche, et puis un service qui va plus être de protection pour des personnes ou des bâtiments. On va pas privilégier le visible, mais plutôt la protection. Donc on aura peut-être un gilet par couteau ou par balle, et ensuite du matériel de défense, donc des gants anti-couteaux, les lames ne peuvent pas passer à travers, et on va, après, selon le niveau de danger, on va avoir des armes, des sprays au poids, des bâtons télescopiques ou des armes à feu, si vraiment c'est considéré comme un service dangereux.
Pourquoi parfois des personnes du public sont blessées ?
Alors, lors d'un match de foot, quand le public vient dans les gradins, il arrive que certaines personnes ne respectent pas les règles. Donc, ils se comportent mal ou bien ils introduisent des choses illicites et dangereuses. Du coup, s'il y a des débordements, ça peut mener à des accidents. Et on ne peut pas garantir un agent de sécurité pour chaque personne du public pour un manque d'effectifs. Du coup, ça crée des fois des blessés.
Quels sont les meilleurs moments que vous avez vécu ?
Alors les meilleurs moments, je dirais que c'est quand on a passé un service qui a été compliqué puis qu'on a tout fait pour que ça se passe bien et qu'à la fin on nous félicite parce qu'on a fait du bon travail.
Et les pires ?
Les pires, dans mon souvenir, c'est qu'au début, en tant qu'agent de sécurité, je travaillais avec des requérants d'asile dans un centre d'accueil. Et c'est des gens qui étaient dans le besoin et c'est quand on devait être strict parce qu'il y avait des règles. Ça a été les pires moments dans mes services.
Merci d'être venu, monsieur Charrière, pour répondre à toutes nos questions.
Avec plaisir. Merci.
Alors, Yana, qu'est-ce que tu as appris ?
J'ai appris qu'il faut régler les problèmes, qu'il ne faut pas se taper dessus, mais il faut régler avec la parole. Maintenant, nous allons vous laisser avec la musique de l'Euro 2012, Endless Summer.
Oh,
Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct de la condamine de la classe 7C1 de Bulle avec Émilie, Naïmi, Johanna et Douls.
Vous vous êtes foulé la cheville ou encore cassé la jambe, aujourd'hui on va vous parler de la médecine du football.
Naïmi, combien penses-tu qu'il y a de joueurs blessés au foot par an?
Environ 200.
Et toi Douls?
Environ 500.
Pour ça, nous allons interroger Monsieur Perret qui est physiothérapeute au FC Bulle.
Bonjour Monsieur Perret, comment allez-vous?
Bonjour, bien, merci.
Nous allons vous poser quelques petites questions. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots?
Je m'appelle Fabrice Perret, je suis physiothérapeute. J'ai fait des spécialisations dans le domaine de la physiothérapie du sport et dans ce qu'on appelle la préparation physique. Et je travaille actuellement dans deux cabinets à Bulle et un cabinet à Charmey. Je m'occupe depuis 2005 du FC Bulle et on collabore aussi avec des clubs comme le SAB, Sporting Athletic de Bulle, et d'autres sportifs individuels comme par exemple Nicole Donzana.
Pourquoi aimez-vous ce travail?
Parce que c'est très diversifié et puis en plus on touche au corps, on touche à la partie physique, à la partie de la personne, à l'humain, dans sa part entière, corps, âme, esprit, j'ai envie de dire. Et puis le sportif en général, c'est des gens qui sont toujours plein d'enthousiasme. Ils ont envie de se prendre en main pour pouvoir reprendre leur activité.
Que pensez-vous que les joueurs mangent-ils avant leur match?
Alors on espère qu'ils mangent toujours bien. Ça veut dire, si possible, plutôt, par exemple, une banane avant les matchs. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils essaient de manger entre 3 et 4 heures avant les matchs un bon plat de pâtes pour avoir assez d'énergie pour pouvoir faire tout le match.
Pourquoi doivent-ils manger cela?
Justement, pour avoir suffisamment d'énergie, on dit le carburant. Et le carburant, c'est souvent les sucres lents, comme les pâtes, le riz, les pommes de terre. Et on évite plutôt les sucres rapides, comme par exemple les Mars, les Snickers, qui ne sont pas très bons. Prendre ça avant un match.
À quelle partie du corps devez-vous faire beaucoup de massages aux joueurs?
C'est surtout les jambes, parfois le dos aussi.
Combien pensez-vous qu'il y a de joueurs blessés par an au foot?
Ça fait un petit moment qu'on a un peu fait de statistiques. Quand le FC Bulle est descendu de première ligue en deuxième ligue inter, on avait arrêté un peu les chiffres, mais sauf erreur, à Bulle en tout cas, il y a environ une cinquantaine de blessés par saison.
Et quelle est votre équipe préférée?
Le FC Bulle.
Et votre joueur?
J'aime bien le gardien, Cédric Zimmermann.
D'accord, merci de nous avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
Dans 15 minutes, j'ai un match de foot. Tu viendrais, Johanna, avec moi acheter un sneakers?
Non, c'est mieux de manger une banane, comme M. Perret l'a expliqué. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous laissons avec une musique de Shakira, la la la.
Like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it?
Bonjour, nous sommes en direct de la condamine avec Sema, Emric, Hakim et Labinota.
Nous allons vous parler de la chose dont tout le monde rêve, de la chose que tout le monde veut. Vous avez une idée?
L'iPhone 6S?
Bah non.
Le bonheur?
Eh bah non.
Une villa?
Eh bah non, c'est l'argent.
L'argent en rapport avec quoi?
Avec un très très grand événement.
Quoi comme événement?
L'Euro 2016 bien sûr, qui se déroulera en France.
Donc tout de suite, nous allons faire un quoi déjà ?
Un micro-trottoir.
Alors,
à votre avis, quel est le salaire de Messi ?
Par mois, par année ?
Par saison.
Par saison ? Ça se chiffre très certainement en millions.
Oula, allez, 10 millions.
Vous pensez combien de millions ?
7.
Quel est le salaire de Messi ? Je crois qu'il gagne par année. Alors, on va dire 35 millions d'euros.
Le salaire de Messi ? 90 000 par mois. Non, pardon. 1 million par mois.
Alors moi, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est énormément d'argent.
Salaire de Messi ?
Oui.
En tout cas, plusieurs millions par année.
12 millions peut-être.
1 million ?
Je sais, moi, 1 trillion peut-être ?
74 millions par saison.
Oui. 74 millions ?
Qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous que c'est beaucoup ?
Qu'il le mérite ?
Donc, c'est le double de ce que je pensais. Alors voilà, moi je pensais que c'était déjà beaucoup.
C'est beaucoup ?
C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop.
Alors, tout travail mérite salaire, ça c'est certain. Maintenant, je pense que 74 millions, c'est un peu scandaleux quand on ouvre les yeux puis qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde.
C'est pas normal qu'un joueur gagne comme ça. Après, vu les ballons d'or qu'il a gagnés, c'est normal.
Et je trouve que c'est beaucoup trop pour juste courir après un ballon.
Je pense que c'est exagéré. C'est un peu fou. C'est trop d'argent pour un joueur de foot, même s'il est très bon.
Ça va.
Ça va ?
Ouais.
C'est une honte.
Oui,
c'est beaucoup trop d'argent pour un joueur de foot. C'est pas raisonnable par rapport aux autres personnes qui travaillent dur pour pouvoir obtenir un petit salaire des fois et être exploité par les plus riches. C'est honteux. Voilà.
Alors, on voit que beaucoup de monde pense que le salaire de Messi est abusé.
Et toi, Lavinota, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je pense qu'il le mérite.
T'es folle ou quoi ?
74 millions pour cette année, c'est trop !
Merci de nous avoir écoutés et au revoir.
Nous allons vous laisser avec un morceau de musique de l'Euro 2008.
Say bubble up, feel it up, select a pull and juggle up. One time come again, make a double up. Pick up the youth, them not a struggle up. Yo, make the most of them all survive. We feel alive, nobody can break the stride. No compromise, the limit of reach the sky. Every time you hear it coming, feel the rush. Of a world with grown with victory bone, the best content, the pump upon. Every time when you hear the sound, the shade, the ground, you know it's coming.
Bonjour chers auditeurs, maintenant nous allons vous parler de... On va parler de quoi déjà au fait ?
Nous allons parler des points négatifs de l'Euro 2016.
Et pour parler de ça, on est avec qui ?
On est avec Rebecca, Labinote, Shaman et Aidan, donc moi.
Mais il n'y a pas de points négatifs dans l'Euro 2016.
Mais si, pareil, tu sais combien d'eau sont gaspillées quand on tire la chasse d'eau ?
Non, combien ?
Environ 10 litres. Et tu prends les 10 litres fois combien de joueurs il y a dans le stade, c'est-à-dire 80 000 personnes. Ça fait combien ?
Ça fait 800 000 ?
Oui, tu vois, c'est quand même beaucoup d'eau gaspillée pour un seul match.
Et maintenant, nous allons faire un micro-trottoir pour voir si d'autres choses que l'eau peuvent polluer pendant l'Euro 2016.
Alors, que pensez-vous de l'Euro 2016 au niveau écologique dans le monde ?
Au niveau ?
Écologique.
Au niveau écologique, ben, je pense que ça a des répercussions, puisqu'il y a des constructions qui doivent se faire. Mmh. Il y a énormément aussi de déplacements de personnes qui vont aussi se faire. Donc, je pense que c'est pas anodin. Mmh. Et puis que c'est pas forcément l'activité la plus écologique qui soit.
Que pensez-vous de l'Euro 2016 au niveau écologique dans le monde ?
Eh bien, je pense que c'est pas l'idéal.
Et pourquoi ?
Parce qu'il y a beaucoup de constructions, il y a beaucoup au niveau écologique, je pense que c'est pas une bonne chose.
Bah, écoutez, c'est en France, donc l'euro, on est d'accord.
Oui.
Donc normalement, ils ont dû faire en sorte que ça soit écologique, que ce soit des jeux écologiques, je pense.
Donc pour vous, l'Euro 2016 est écologique ?
Bah, à première vue, oui.
Très bien.
Alors, comme tout événement sportif, je ne suis pas très renseignée sur l'Euro 2016. Ça a lieu en France, c'est juste ?
Oui.
Oui. Mais je sais que écologiquement, c'est un petit peu une catastrophique au niveau des constructions et des conditions de travail des employés et du recyclage des déchets, etc. Donc, je ne sais pas comment la question est traitée, mais je pense que l'impact est plutôt négatif.
C'est pas très écologique.
Ok, et qu'est-ce qui n'est pas très très écologique ?
Ah, c'est toutes les constructions qu'ils doivent faire pour que ça se passe.
Oh là là, je pense qu'au niveau écologique, c'est pas terrible. Pour le monde non plus, parce que l'euro, il se passe dans un pays où il fait trop chaud et puis les gens... Hein, non ?
L'euro, c'est en France.
C'est en France ?
Oui.
Il y a beaucoup de constructions, beaucoup de circulation et puis je pense que ça va donner beaucoup de pollution.
Et vous, monsieur ?
Ben, je suis d'accord avec elle.
L'euro 2016 au niveau écologique.
Oui.
L'écologie, ça m'intéresse.
Oui. Hein.
Tout ce que je peux dire Euro 2016, comme ça, ça ne me dit pas trop. Mais hier soir, j'ai par hasard regardé un téléjournal et puis j'ai vu qu'on parlait des pesticides au téléjournal.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très, très bien.
Très bien.
Parce qu'il y en a beaucoup trop et puis il y a plein de choses. Je crois que les gens sont en train de se réveiller et puis ils commencent à s'intéresser à tout ce qu'il y a autour d'eux et puis dans leur assiette.
Et donc l'Euro 2016, vous pensez que ce n'est pas bien au niveau écologique ?
Alors il faut que tu m'expliques déjà, je connais beaucoup de choses, mais oui. Euro 2016, c'est quoi exactement ?
C'est un tournoi de foot.
C'est un tournoi de foot.
Voilà. Qui se déroule en France, un grand, grand tournoi de...
Alors moi, je suis pour le sport. Je trouve que c'est bien qu'on se rencontre. Maintenant, c'est comme dans tout. Je suis persuadée que si on fait attention, ça peut très bien se passer.
Alors ça, je sais vraiment pas très bon.
Donc au niveau de tout ce qui a été mis en place par rapport aux constructions, etc.
Oui.
Je suis pas sûre que l'écologie ait été au centre des réflexions.
Et pourquoi ?
Le foot avant tout. Sur le moment, je pense que c'est déjà la construction, la réfection de certains stades, construction de certains stades. Je ne suis pas sûre que dans la construction, les matériaux aient été choisis pour leur impact écologique. Ça, c'est la première chose. Puis après, au niveau écologie, alors si on pense à long terme, qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces infrastructures qu'ils ont construites pour l'euro ? C'est pas seulement l'euro le problème. Hein. Le problème, il est aussi quand il y a des Jeux Olympiques ou des grandes manifestations comme ça. Qu'est-ce qu'on fait après avec tout ce qui reste ?
Que pensez-vous de l'Euro 2016 au niveau écologique dans le monde ?
Étant donné que je ne m'intéresse pas beaucoup aux fautes, je ne sais pas grand-chose sur l'Euro 2016.
Mais d'après vous, est-ce que ça pollue beaucoup ou pas beaucoup ?
Alors, je pense que ça pollue beaucoup moins que le mondial qui est en train de se préparer dans un pays des Émirats Arabes Unis et qui ont construit un stade de foot en plein désert, enfin plusieurs stades de foot en plein désert. Et puis, on utilise des travailleurs étrangers qui viennent des pays de l'Asie. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont décédés pendant la construction de ces stades de foot. Mais pour revenir à l'Euro 2016 qui aura lieu en France, hein, c'est bien juste. Ça pollue parce que y a des gens qui prennent l'avion pour venir voir les matchs de foot qui viennent de loin. Et puis quand on prend l'avion, on utilise beaucoup de kérosène. Donc ça, c'est pas un très bon impact pour notre planète. Mais à part ça, je pense que ça en vaut quand même la peine parce que c'est une occasion pour les différents groupes, les différentes équipes de foot de se retrouver. Et de vivre leur passion à fond. ça permet aussi aux supporters de vivre de beaux moments de joie et de plaisir.
Alors, dans ce micro-trottoir, nous avons pu voir que certaines personnes pensent que l'euro pollue beaucoup. D'autres pensent qu'il ne pollue pas et enfin, certaines personnes ne savent pas. Et vous, vous en pensez quoi ? Bon, sur cela, nous allons...
Attendez, j'ai encore quelque chose à dire, moi.
Bah, dépêche, alors, c'est l'heure.
Monsieur, Madame Hussion, ont un fils, comment s'appelle-t-il ?
Je sais pas. Tu sais, toi, la binote ?
Non.
Et toi, Rebecca ?
Non.
Bah, c'est logique. Paul. Paul Hussion.
Ouh là 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 là. Bon, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
Nous allons vous laisser avec une comptine pour enfants sur la pollution.
Merci.
Merci.
La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Qu'elle soit atmosphérique, elle n'est pas sympathique. Qu'elle ne soit que de plastique, il y a toujours un hic. Nous ne sommes pas des cheminées à respirer la fumée. Il faut donc se préserver pour rester en bonne santé. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. Un peu moins de détritus pour se dégager la vue. Elles sont plus jolies les rues, toutes propres qui l'eût cru. Quand les déchets sont triés, on peut tous les recycler. La terre sera ainsi préservée, on pourra toujours y danser. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution, ce n'est pas bon, il faut tous faire attention. La pollution.
Bonjour, nous sommes avec la Radio Box en compagnie d'Edison, moi, Iliane et Ensar et Nathan. Nous allons tout de suite vous présenter les 5 meilleurs buteurs du 9 mai 2016.
Salut à tous, donc c'est parti pour le top 5 des meilleurs buteurs d'Europe du 9 mai 2016. 5e place, Karim Benzema, 24 buts en 26 matchs. 4e place, Harry Kane, 25 buts en 30 matchs. 3e place, Robert Lewandowski, 29 buts en 31 matchs. 2e, Cristiano Ronaldo, 33 buts en 35 matchs. Et le premier, Zlatan Ibrahimovic, 36 buts en 30 matchs. C'était le top 5 des meilleurs buteurs d'Europe du 9 mai 2016.
Salut Enzar, ça va ?
Oui, ça va, oui.
T'es pour qui cette année à l'Euro 2016 ?
Pour l'Albanie.
Et ton joueur préféré ?
Oui.
Ok. J'ai mal compris. C'est qui ?
Ronaldo.
Ok. Nous allons vous interviewer Monsieur Bochu. C'est parti.
Bonjour, nous sommes en direct de la Condémine. Nous allons interviewer un joueur du FC Bulle, Monsieur Bochu.
Bonjour.
Pourriez-vous nous vous présenter en quelques mots ?
Alors, en quelques mots, ben, je vais avoir 24 ans. J'habite à Bulle depuis que je suis tout petit. Je suis passé par ces classes-là quand j'étais plus jeune, moi-même. J'ai fait la moitié de ma scolarité ici. Ensuite, j'ai été à la Léchère. Et puis, j'ai un CFC dans la construction métallique. Et puis, je me prépare à intégrer l'école d'ingénierie en génie civil.
Quand avez-vous commencé le foot ? Pourquoi ?
Alors, quand ? Un petit peu plus tard que les autres, je dirais, j'ai pas commencé tout de suite, j'ai essayé le basket, le judo, et puis mon frère, qui est 4 ans plus vieux que moi, il faisait du foot, et puis à force d'aller regarder ses matchs, ben, j'ai dit à mes parents, je veux aussi jouer au foot. Voilà comment j'ai commencé le foot.
Quels sont les conseils que l'entraîneur vous donne avant le match ?
Alors, à notre niveau, entre guillemets, il donne plus de considérations techniques, tout ça, les conseils... C'est plus distillé aux entraînements, mais c'est important d'avoir confiance en soi. Si on sait qu'on peut faire une chose, ça va tout seul. Donc du moment qu'on soit défenseur, attaquant, je crois que le principal, c'est d'avoir confiance en soi et en ses capacités.
Combien de matchs jouez-vous par seconde ?
Alors, ça fait, on dira, une vingtaine, un peu plus, 23, 24.
Quel numéro avez-vous sur votre maillot et pourquoi ?
Alors, le numéro 3, je l'ai depuis que je suis tout petit aussi, quasiment. J'ai très peu changé. Et je sais pas, honnêtement, pourquoi. Je suis défenseur. Le numéro 3, à ce qui paraît, c'est un numéro de défenseur. Donc, ça me va bien.
Qui est votre idole ?
Alors, je sais pas si vous avez connu, mais c'est Fabio Cannavaro. C'était un défenseur italien qui était assez petit, puis qui jouait au même poste que moi. Et je trouvais que sa combativité, et c'était très exemplaire.
Quels sont les événements qui vous ont marqué dans le football ?
Alors, il y en a beaucoup, parce que le football, pour moi, c'est un vrai plaisir. Donc, chaque année, la Champions League, c'est toujours des jolis matchs. Cette année, on a l'Euro, on a eu les Coupes du Monde. Moi, je n'ai pas vraiment un souvenir précis. C'est vraiment un souvenir général que le foot est un beau sport qui transmet beaucoup d'émotions.
Est-ce qu'il y a des choses difficiles ?
Oui, bien sûr. Et c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des fois où ça va mieux, des fois où ça va moins bien. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est fort et qu'on peut relever la tête du moment qu'on en a envie.
Qu'est-ce qui vous a motivé à jouer en Première Ligue ?
Alors, déjà, le niveau, parce que même si c'est de la Ligue amateur, c'est déjà un bon niveau. C'est très intéressant de pouvoir évoluer à ce niveau-là, surtout dans notre région où on a très peu de clubs à ce niveau-là. Donc, c'est une fierté aussi de pouvoir représenter mon club, vu que j'ai toujours joué à Bulle, et via le club, un peu ma ville, dont vous faites partie également.
Merci beaucoup, Monsieur Bouchy.
Merci à vous.
On voit qu'il a énormément de plaisir à représenter sa ville de Bulle et son club. Et il dit que si on a confiance en soi, on peut arriver à tout. Maintenant, nous allons vous laisser avec un morceau de musique de Rihanna.
Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are the reason. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my sleeve for decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. Tell me about that work, 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 work. Da, 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 da. When you walk out, da, 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 da. Before the table turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave.
Maintenant, nous allons faire un micro-trottoir pour savoir qui va gagner l'Euro 2016. C'est parti !
Qui va gagner l'Euro 2016, à votre avis ?
La France.
Pourquoi ?
Parce que c'est les meilleurs.
L'Espagne.
Ouais, la France.
À mon avis, ce sera l'Allemagne.
Ouh, mais alors moi, je vais rien, parce que j'en ai aucune idée. Hein.
Ah, ok.
je vais dire l'Espagne.
Mais...
Pourquoi ?
Parce que je crois qu'elle est bonne, mais c'est tout.
Entre quelle équipe et quelle équipe ?
Vous avez un peu le choix entre la France, tout ce qu'il y a dans l'Europe.
On va dire la France ?
Aucune idée, parce que je m'intéresse pas tellement aux potes.
La France.
Et pourquoi ?
Je ne sais pas.
L'Euro 2016, la France.
Qui va gagner l'Euro 2016, à votre avis ?
La Turquie.
Pourquoi ?
Parce que j'aime la Turquie.
Alors, quel est votre joueur préféré et pourquoi ?
Joueur de quoi ?
De foot.
Oh, moi, j'aime pas le foot.
Ronaldo.
De foot. Senderos.
Yassine Brahimi, joueur d'origine algérienne. Il joue avec Porto.
Mohamed Ali Labitri, d'origine Tunisie.
Alex Frey.
Ok, merci de votre attention. Au revoir.
On a appris que beaucoup de monde était pour la France, mais qu'en pense notre ami Edison ?
Bah moi je suis pas pour la France.
Alors t'es pour qui ?
L'Angleterre.
Et pourquoi ?
Bah c'est un pays que j'aime.
Ok, et Nathan ?
Je suis pour la Suisse parce que j'aime pas trop la France.
Moi, je suis pour l'Angleterre parce qu'ils ont un joli jeu et il y a des bons joueurs dedans. Donc maintenant, nous allons vous laisser avec une musique de l'Euro 2004 qui a eu lieu au Portugal de Nelly Furtado.
So glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element of fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know you got it when. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum.
Voilà, l'émission est finie.
On remercie à ceux qui se sont déplacés pour répondre aux interviews et à ceux qui ont répondu au micro-trottoir.
Merci et bravo à la team qui ont fait des super interviews et des super micro-trottoirs. À bientôt. Yeah!